la musique qui se respire. Excellente matinée, 10h30, entretien avec sur Radio Pays d'Aurillac. Serge Mielvac reçoit Franck Gentil, responsable de l'association La Compagnie Internationale du Train, pour évoquer avec nous la genèse de cette structure qui rappelle l'histoire ferroviaire des lignes du Cantal au travers de documents, projections et chaînes YouTube. Entretien avec sur Radio Pays d'Aurillac, Serge Mielvac, Franck Gentil.
Nous recevons dans les studios de Radio Pays d'Aurillac Monsieur Franck Gentil. Alors Franck Gentil, c'est un cheminot en activité et responsable de l'association La Compagnie Internationale du Rail. Alors Franck, bonjour. Alors c'est avec plaisir que nous te recevons dans les studios d'RPA. Alors parle-nous un petit peu de cette association.
Bonjour Serge, merci de me recevoir ici. En fait, cette association, elle est née en 2024, en fait, officiellement, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on se rencontre. En fait, j'avais créé une chaîne YouTube il y a déjà un bon nombre d'années de ça, où j'avais fait quelques vidéos de train, quelques vidéos aussi techniques, et puis comme je me suis rendu compte que ça plaisait, j'avais pas mal de retours, des questions, etc. Donc de fil en aiguille, j'ai rencontré du monde, des passionnés, qu'ils soient professionnels ou non, hein, des gens qui sont pas forcément professionnels dans le métier du chemin de fer. Et donc à partir de là, on a décidé de créer un forum, parce qu'en fait je recevais des questions de certaines personnes et je renvoyais ces questions vers d'autres personnes, etc. Donc on a commencé par créer un forum pour pouvoir échanger, et petit à petit on a réuni des documents, on a réuni des informations, on a fait des films, et donc on a créé un site internet, et ensuite de fil en aiguille on a créé l'association pour avoir une structure officielle, pour pouvoir obtenir plus facilement des droits pour les images, des contacts, et pouvoir développer notre activité, et que ce soit donc des reportages, donc soit des écrits, soit des reportages, des déplacements sur place, etc. Des articles, des analyses aussi de ce qui se passe dans le monde ferroviaire. Sachant que l'association, elle n'est pas cantonnée à la France, hein, c'est pas une association SNCF, c'est bien du ferroviaire dont on parle, hein, donc c'est-à-dire tout ce qui touche au monde ferroviaire dans son ensemble, dans le monde entier en fait.
Tout ce qui touche au ferroviaire, et pour avoir assisté à deux des projections, parce que tu parlais de différents documents, d'une chaîne YouTube, il y a déjà eu des projections sur notamment la ligne Hervent-Figeac, et puis sur celle de le fameux triangle de bord, Miécaze-Bord, qui est passé dernièrement sur Aurillac. Ce sont des documents que tu as collectés avec des archives, des passionnés, des anciens cheminots.
Oui, alors le premier film, c'était Voyage au cœur d'un volcan. Il y avait une série, j'avais fait une série sur YouTube qui était en 5 épisodes, qui durait très longtemps, parce que la totalité des épisodes durait plus de 6 heures. Donc c'est grâce à une étude menée par Didier Château, qui est membre de notre association, qui est aussi membre de TDH, les Trains de l'Histoire, qui est un forum. Et donc cette personne, une fois à la retraite, qui était passionnée, qui a découvert le chemin de fer, qui s'est passionnée pour le chemin de fer, elle a décidé d'étudier plusieurs lignes de l'Auvergne, puisque c'est un peu son fief et sa passion. Et elle a publié en titre privé, on va dire, une étude formidable sur la ligne de Hervent jusqu'à Aurillac. Il n'a pas été jusqu'à Figeac, et il a parcouru donc à pied toute cette ligne, etc. Il a fait des recherches pendant de nombreuses années, donc c'est quand même un travail d'équipe, parce que il y a besoin de personnes, donc justement des personnes qui ne sont pas forcément du métier, vont demander à des personnes qui sont du métier pour retrouver des documents. Donc on a la chance de pouvoir d'avoir des personnes qui acceptent de donner des documents, des informations, et retracer l'histoire de cette ligne, mais pas seulement au niveau vu du train, c'est-à-dire que tout ce qu'elle peut amener au niveau économique et social, donc tout ce qui se passait dans les villages, tout ce que le train a amené, a permis de développer, du début de la genèse, c'est-à-dire quand les gares ont commencé à être construites, jusqu'à la fin, quand les gares se sont tues.
Oui, parce que tu l'as expliqué notamment lors de la dernière projection, ça a permis l'ouverture de ce département qui était un petit peu replié sur lui-même, qui était très enclavé à l'époque déjà.
Ah, c'est ça, oui. Tout le département du Cantal, il doit son développement au chemin de fer. Hein. C'était un des derniers départements enclavés en France, alors que c'était un de ceux qui avait le plus grande richesse, que ce soit du point de vue agricole, mais également en fruitier, parce qu'il y avait beaucoup de fruits dans certaines villes. Donc le transport du bois également. Et on avait à l'époque, ben, évidemment, des problèmes pour acheminer tous ces matériaux. Et tant qu'on ne pouvait pas acheminer tout ça, toute cette production à l'extérieur, et ben, il était difficile de que le Cantal se développe. Donc le train était devenu un élément essentiel, primordial. Et bien sûr, il a été accueilli avec énormément d'enthousiasme par les gens, même si ça a demandé, évidemment, ça demande des travaux très importants, parce que ben, le problème de notre département, ben, c'est le relief. Donc faire passer un train dans des montagnes comme ici, c'était des prouesses techniques. Pour chacune des lignes du Cantal, ça a été une prouesse technique, ça c'est sûr.
Voilà, c'est bien expliqué d'ailleurs dans ces différents films. Tu parles de prouesse technique avec les ouvrages d'art, pourquoi avoir construit la ligne sur ce versant-là et pas sur l'autre. Il y a tout un tas d'aspects que les gens ignorent lorsqu'ils prennent le train.
Oui, tout à fait. Pour le premier film, donc Voyage au cœur d'un volcan, qui raconte l'histoire donc de la ligne de Arvant jusqu'à Aurillac, on a eu la chance d'avoir un ingénieur d'origine allemande, Willem Nordling, qui a quand même fait ses études en France, il faut savoir, qui est un très grand ingénieur, et à l'époque, il s'est mis un peu contre les idées qui étaient prévues au départ, contre les premiers tracés. On va dire qu'il a apporté un souffle nouveau, et c'est lui qui a, on peut vraiment dire que c'est grâce à lui si la ligne a pu aboutir, parce que le but d'une ligne, c'est aussi qu'elle soit exploitable facilement. Et ici, les enjeux, c'était de passer la montagne et la neige, et donc ces intempéries, ces congères, etc. Tout ça a été pris en compte pour construire une ligne praticable, qui coûte pas trop cher non plus et qui desserve un maximum de villages. Parce qu'il faut savoir que quand le train arrivait, les villages se battaient pour que le train passe chez eux, forcément. Donc c'est le pari qui a été fait, qui a été réussi, puisqu'on a une des lignes avec un pourcentage le plus important qui existait à l'époque, puisqu'on a 30 pour 1000, donc ça fait 3%. Donc c'est la ligne la plus pentue du Cantal, hein, la ligne qui passe au Lioran. À l'époque, ils étaient effrayés par ces pourcentages, ils pensaient que jamais ça passerait. On a même fabriqué des locomotives spéciales au début, les machines Forconeau, pour pouvoir monter ces marchandises. Et le pari, c'était de mettre la ligne à l'abri des congères, parce que la difficulté, c'était pas tellement l'accumulation de la neige, parce qu'il suffit de l'évacuer, c'était surtout les congères. C'est pour ça qu'il avait choisi ce versant de la montagne et pas l'autre versant comme il était prévu au départ. Donc toutes ces choses-là, c'est ce qu'on retrouve dans le film, et surtout ce qui a donné naissance à l'une des stations de ski la plus unique en Europe, puisqu'elle permet de décharger les skieurs au pied des pistes de ski avec leur matériel. Et c'est ce qui a donné naissance à la station de ski du Lioran. Il faut savoir qu'elle a été initiée par la compagnie du Paris-Orléans. Et avant ça, il n'y avait rien au Lioran, en fait. Hein. Il n'y avait rien à la station. C'est le train qui a permis la construction de cette station de ski. Ouais.
On a souvent parlé, beaucoup de communes du Cantal, on a qualifié de fille du rail. Et on pense à le thermalisme à Vic-sur-Serre, le bois ou l'usine Colas-Rouget ou tant d'autres qui se sont développés avec le rail ou Murat avec les usines Jambon.
Exactement, oui. Oui, on a eu un développement industriel énorme. Hein. Effectivement, hein, l'usine Jambon, qu'on peut encore apercevoir, puisqu'il a racheté l'ancien dépôt de Murat, donc la rotonde, etc., et qui expédiait tout par le rail, y compris, on avait un gros trafic d'essence aussi. Plus tard, évidemment, c'est venu plus tard, mais quand l'essence est arrivée, il faut savoir que l'essence, elle arrivait par train régulièrement. Et donc on avait des entrepôts d'essence, hein, à Arpajon-sur-Serre, à Murat, il y en avait aussi qui ont donné naissance d'ailleurs à Total, hein, c'est les anciens de Total. Donc il y a beaucoup de choses qui sont nées dans le Cantal et qu'on a oubliées, parce qu'en fait on oublie un peu nos richesses. Hein, à Arpajon-sur-Serre, il y avait une mine aussi par exemple, qu'on peut voir encore. Tout était acheminé par le ferroviaire. Sans le ferroviaire, on n'aurait pas eu ce développement, puisqu'on n'avait pas les capacités à l'époque, ni les routes qui permettaient de passer par les wagons, par les camions, pardon.
Petite pause musicale dans cet entretien avec ce Radio Pays d'Aurillac pour le dernier souffle du bleu d'Auvergne.
Radio Pays d'Aurillac.
Sous le ciel d'Aurillac, le vieux fer résonne encore. Les rails chantent à mi-écase, l'écho d'un temps qui s'endort. Le vent siffle à Viscan, caressant les signaux dressés. Et la marronne murmure aux pierres du pont brisé. C'était le dernier souffle du bleu d'Auvergne, un cri d'acier perdu dans la brume des montagnes. Devant les orgues à Mauriac, la mémoire s'éteint, mais le cœur du rail bat encore dans nos chemins. Pondu au fer, dans la rivière engloutie, sous l'eau claire d'enchaîner, les villages ont péri. Mieux dans Saint-Tilly, vos gars s'envoient. C'était le dernier souffle du bleu d'Auvergne, un cri d'acier perdu dans la brume des montagnes. Devant les orgues à Mauriac, la mémoire s'éteint, mais le cœur du rail bat encore dans nos chemins. À Lorgnac, la houille noire s'y tue. La semaine rouille ses ponts suspendus. Les tunnels pleurent leurs lampes éteintes. Et les gars rêvent d'un train qui revient. À Drujac, à Salins, les herbes ont tout repris. Les voix des cheminots se perdent sous la pluie. Mais parfois au détour d'un chemin qui s'efface, on croit entendre un train qui passe au loin. C'était le dernier souffle du bleu.
Le dernier souffle du bleu d'Auvergne. Très bonne matinée à l'écoute de Radio Pays d'Aurillac. Retour de l'entretien avec Serge Mielvac et Franck Gentil.
Radio Pays d'Aurillac.
C'est un peu le but de cette association, la compagnie internationale du train, c'est de faire toucher du doigt un petit peu, là, au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité douce, de développement durable, le rôle du train, le rôle qu'a pu avoir le train et ce qu'il pourrait amener et ce qu'il a amené quand on voit le transfert qu'il y a aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Alors nous, on n'a pas un discours ni politique. Nous, on n'a pas du tout un discours politique. On se place plutôt du côté de l'histoire. On est plutôt des historiens. Donc on va analyser les choses d'une manière factuelle. Donc avec des chiffres, avec ce qui était, ce qui est, hein, que ce soit au niveau des démographiques, que ce soit au niveau des quantités transportées en tonnes, que ce soit au coût que ça peut rapporter. Et ensuite, à chacun de tirer son analyse. Donc les films qu'on fait, les deux films qu'on a fait, c'est ce qui montre en fait. Et à chacun de faire son point de vue. Est-ce que... nous pensons que en France, on est quand même un peu en retard. On n'a pas pris la même direction que la plupart des pays européens, pour diverses raisons politiques. Et je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir faire machine arrière. Et nous, on est là pour dire, attention, voyez ce que vous risquez de perdre. Et certaines choses vont être difficiles ça va être difficile de revenir en arrière pour certaines choses.
Le public qui a assisté à ces différentes projections, là, il y a un petit peu de causerie à la fin des projections, un peu de débat. Qu'est-ce qu'il en ressort?
Oui, alors à la fin de chaque projection, on fait un débat forcément. Parce que, bon, d'abord, au départ, les gens sont un peu surpris, le temps d'analyser tout ce qu'ils ont vu, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est de l'histoire, c'est aussi parfois très émouvant de voir des choses qui ont disparu, des choses qu'on a pu connaître ou pas, hein, puisqu'on a des gens qui viennent et qui connaissent pas du tout, hein, même des gens extérieurs au Cantal et qui découvrent. Donc ensuite, les gens, bon, peuvent commencer à poser des questions diverses, en fait. Soit ça va être des questions techniques. Souvent, ce qui est revenu le plus souvent, c'était, au niveau technique, ça va être le patrimoine. C'est-à-dire que les gens, ils se rendent compte de la valeur des ouvrages d'art et ils comparent parfois avec des grands ouvrages comme des cathédrales, des églises, etc., qu'on protège, qu'on a classés, et se disent, pour certains ouvrages qui sont méconnus, qui sont dans des endroits pas accessibles, qui sont cachés par la végétation, ils se rendent compte en fait de la quantité de travail que ça a demandé, et c'est bien le terme ouvrage d'art, parce que c'est vraiment des ouvrages d'art.
On pense notamment au viaduc de Barajol.
C'est ça, donc voilà, titre d'exemple. Hein. Donc sur la ligne des Houillères, hein, la ligne de Miécaz à bord, c'est pareil. On a le viaduc de la Sumène, le viaduc du Mars. Donc le viaduc de la Sumène qui, par exemple, qui est classé dans l'inventaire des ouvrages d'art, et donc qui est normalement protégé. Et on peut se poser la question de savoir ce que vont devenir ces ouvrages sur les lignes qui actuellement sont abandonnées, hein, qui sont finies. Mais également, on reste quand même admiratif sur les ouvrages d'art, donc qui sont actuellement toujours en service, hein, qui demandent quand même un certain entretien, mais qui ont été construits pour durer dans le temps. Hein. C'est des ouvrages qui vont tenir encore très longtemps, en pierre. Hein,
en pierre ou en métal, en passant à Garabit sur une de l'ouvrage.
Voilà, comme le viaduc de Garabit, etc. Donc ça, c'est des questions qui reviennent. Et ensuite, les gens se demandent souvent pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne marche pas. Donc dans les débats, on leur explique toujours au départ que le chemin de fer, toutes ces lignes de chemin de fer, elles ont été construites dans un seul but, c'était pour transporter les marchandises au départ. Parce que les marchandises, c'était le seul moyen de dégager suffisamment d'argent, de bénéfices, pour pouvoir ensuite entretenir la ligne. C'est ce qui, en fait, a donné le feu vert, c'est ce qui a permis au gouvernement de leur donner le feu vert pour leur construction. C'est pas le transport des voyageurs au départ. Ensuite, le transport des voyageurs s'est greffé sur ces circulations de trains de marchandises, de fret. Donc ça, c'est ce qu'on explique en premier, c'est ce qu'on explique aux gens. Et donc, ils comprennent que l'abandon du trafic marchandises, la disparition de tout ça, c'est ce qui engendre ensuite le fonctionnement qu'on a actuellement sur les trafics voyageurs. Puisqu'on va se retrouver avec pas assez de personnel pour entretenir, pas assez de personnel pour faire passer des trains dans les gares, pas assez de gares ouvertes, etc. Parce que ce personnel, eh bien, il coûte trop cher pour faire circuler que quelques trains de voyageurs. Alors que noyé dans une masse de trains de marchandises, hein, comme sur la ligne de Miécaz à Bord-les-Orgues, où on avait encore 4 à 5 trains de marchandises en 1985, hein, ce qui n'est pas vieux, elle a fermé 10 ans plus tard.
Et notamment les usines Lapeyre.
Voilà, les usines Lapeyre à Hyde, qui avaient, je crois que c'est 3 dessertes par semaine régulières, hein, tout le bois d'origine, enfin le bois d'avant fabrication arrivé par wagon, directement dans l'usine, donc c'est vraiment un transport important. En fait, et puis bon, tout s'est accéléré. On a mis le transport routier pour des lobbies financiers, évidemment, mais également parce que c'est pratique d'aller plus vite. Et peut-être qu'on est à une époque où il va falloir réfléchir à aller plus doucement et à se dire, est-ce que des fois il ne vaudrait pas mieux aller plus doucement et avoir quelque chose de plus fiable, de plus sécuritaire et de moins polluant que d'aller vite sans calculer les coûts, quitte à le faire payer même aux contribuables. C'est des questions qu'il faudra se poser, c'est des questions qui s'ouvrent quand on regarde ces films.
Alors, il y a d'autres projections de prévues. Tu as parlé de 3-4 projections qu'il y avait eu dans le Cantal. Il y a des demandes un petit peu, les cinémas notamment?
Ben, pour l'instant, qui est prévu peut-être une projection à Clermont-Ferrand. On fait des démarches auprès des cinémas. Tous les cinémas ne répondent pas favorablement. Disons que quand ils répondent, c'est favorablement, sinon ils répondent pas en général. Mais disons qu'au début, on n'avait pas suffisamment de notoriété. Et les cinémas qui ont passé quelques années difficiles, on va dire, là ça commence à revenir, mais il faut bien dire qu'ils ont passé quelques années difficiles, ils ont un peu peur de dire, ouais, on va passer un film sur un sujet, on ne sait pas s'il y aura du monde. En même temps, c'est un film où les gens ne savent pas ce qu'ils vont venir voir, parce que c'est différent de ce qu'ils ont pu voir. C'est pas un film comme un film qui va raconter une histoire, mais c'est pas non plus un documentaire. C'est un mélange des deux. Il faut savoir qu'il y a une histoire, qu'il y a quand même du sentiment, que c'est un film qui explique ce qu'ont fait nos parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres. Et les gens, comme ils sont pas au courant, la plupart ne sont pas au courant de ce qu'il y a pu avoir avant. Donc ils peuvent pas savoir ce qu'ils vont découvrir. Mais on a quand même un quart de personnes qui vient, qui sont assez jeunes, qui découvrent, et on a toujours de très bons retours, des gens qui sont agréablement surpris et qui trouvent que le temps finalement, il passe vite à regarder ce film. Voilà.
On peut dire qu'à Aurillac, ça a été un succès. Les deux dernières séances, elles ont fait quasiment le plein à chaque fois.
Oui, c'est ça, ouais. Donc à Aurillac, on a eu. Donc à Mauriac, on a fait pratiquement salle comble. 135 personnes à Mauriac. À Ide, on a rempli la salle avec plus de 90 personnes. C'est une petite salle de 100 personnes. À Riom-ès-Montagnes, on a fait 65 personnes. Bon, à Aurillac, on est arrivé à 165, je crois. Enfin, deux fois 165. 165, 70 personnes. On va dire que la salle était pleine, puisqu'après, bon, quand on se retrouve juste sur les Strapontins. On peut dire que la salle, elle est quand même remplie. Donc oui, à chaque fois, on avait une bonne salle. Sans compter une projection qu'on a fait aussi à La Roquebrune, une projection gratuite qu'on avait fait à La Roquebrune, où on a eu presque une centaine de personnes, quoi. Donc c'est des bons retours, hein. Les gens attendent. Il y a même des personnes qui sont venues le voir deux fois. Parce que comme c'est des films où il y a beaucoup d'informations, des fois, une fois, on n'a pas le temps de tout voir, quoi. Et puis, bon, il y a beaucoup d'images qu'on a retrouvées qui sont uniques, surtout sur l'île du Luron, hein, parce que y a des photos qu'on retrouve qui sont pas dans le Cantal. C'est des gens qui sont soit venus en vacances ici, compris des clichés, soit des expéditions photographiques qui viennent même de l'étranger, hein, notamment de Belgique, hein, des écoles qui sont venues. Donc on a retrouvé ces documents, on a retrouvé les personnes pour demander les droits, on a retravaillé tous ces documents pour leur donner un visage qu'on puisse admirer au
avec
cinéma,
l'intelligence
avec
artificielle.
notamment avec l'intelligence artificielle. Bon, pas seulement, parce qu'on travaille aussi manuellement, mais l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça nous aide beaucoup pour retoucher les photos et les. Alors, on les modifie pas, hein. Faut savoir qu'elles sont pas modifiées. Mais par contre, on va enlever des taches, etc. On va faire ressortir ce qui nous intéresse. Et puis après, bon, bien sûr, il faut quand même les identifier, savoir à quoi elles correspondent et aller sur le terrain pour comparer avec ce qu'il y avait, parce qu'il y a toute une histoire, hein, autour de ces lignes ferroviaires très importante, hein, très riche, notamment dans le Cantal. Hein.
On invite les gens. Alors, est-ce qu'il y a des sites où les gens peuvent voir des extraits? Par exemple, tu as parlé tout à l'heure de la chaîne YouTube, mais ils peuvent aller sur une page Facebook.
Alors, ouais, on a ma chaîne, la chaîne YouTube, hein, la compagnie internationale du train. Anciennement, c'était Franck et compagnie. Hein, donc, les deux fonctionnent, Franck et compagnie ou la chaîne internationale du train. La compagnie internationale du train. Et dessus, on retrouve les bandes annonces de tous les films, plus d'autres films qu'on a fait avant. Et sinon, sur notre site, le site de la compagnie internationale du train, francci.fr. Sur lequel on retrouve, il y a des films aussi, des films qui ne sont pas passés au cinéma, hein, des films qu'on a fait, les films, des articles, etc. Donc les gens peuvent s'abonner, c'est gratuit, parce qu'il y a certains films qui sont réservés aux abonnés, disons qu'il faut être abonné pour pouvoir les visionner, d'autres qui sont ouverts en public. Puis il y a un forum, hein, donc les gens peuvent poser des questions et on y répond, même des questions techniques. Donc il y a une partie du forum qui est ouverte au public, hein, pas besoin d'être abonné. Les gens peuvent poser des questions. Il faut savoir qu'il y a la compagnie internationale du train, donc on est une vingtaine de membres, tous de milieux différents, c'est-à-dire qu'on a tous nos spécialités. Donc que ce soit au niveau du domaine ferroviaire précis, c'est-à-dire ceux qui connaissent on va dire, tout ce qui est services de la technique, de la voie ou autre chose, que ce soit mécanique pour les engins moteurs, les locomotives, voilà, chacun a sa spécialité, plus sur l'histoire. Et donc, quand on nous pose une question, on y répond, on essaye d'y répondre. Si on n'a pas la réponse, on fait des enquêtes pour essayer de trouver la réponse.
Merci Franck pour toutes ces précisions. Donc on rappelle la compagnie internationale du train qui a récemment projeté des films et qui a d'autres projets en vue, là, hormis les projections.
Oui, là, on est en train de faire une étude sur la ligne Aurillac-Saint-Denis-Prémartel, la ligne de Brive-la-Gerbe, parce que c'est une ligne qui est menacée. Il doit y avoir des travaux, mais ils sont un peu revus à la baisse. Moi, je pense pas qu'ils soient à la hauteur de ce qu'elle mérite. Il faut savoir que c'est une ligne qui est unique en France. De par les ouvrages d'art qu'elle traverse, on a retrouvé pas mal de documents déjà et on est à l'étude dessus, donc on va aller filmer, refaire toute l'histoire de cette ligne et je pense qu'il devrait y avoir un très beau film qui va sortir. On a déjà commencé à faire des interviews, on a retrouvé des personnes qui ont vécu dans les gares, etc.
Beaucoup de tunnels.
Beaucoup de tunnels sur cette ligne, on a 23 tunnels sur une distance assez courte et je veux pas dévoiler le secret du film. On va dire que la construction de cette ligne a été assez unique et il y a vraiment énormément de choses à voir et ça va être quelque chose d'assez impressionnant, je pense.
On sera tenu au courant de l'avancée de ce projet. Un livre aussi, peut-être? Ça avait été demandé s'il y a eu des...
Oui, c'est vrai. Alors, on a sur Voyage au camp d'un volcan, on a toute l'étude de Didier Chateau. Pour l'instant, on n'a pas décidé de la publier. Il faut savoir que ça comporterait énormément de pages. Toutes les photos ne sont pas obligées d'être publiées non plus. Hein. Mais certainement qu'un jour, il y aura un livre qui sortira là-dessus. Il faut savoir que l'étude, elle est complète. Elle est vraiment complète. C'est-à-dire qu'elle reprend vraiment chaque embranchement. C'est avec chaque ouvrage d'art qui a été construit avec son histoire, etc. Ouais. C'est une grande histoire du Cantal. En fait.
Eh bien, merci pour tout ce travail, Franck. Et puis, comme on dit, à bientôt sur nos lignes et sur nos ondes.
C'est ça, à bientôt sur nos lignes, Serge. Et merci encore de nous avoir reçus. À bientôt sur RPA.
Merci.
Fin de cet entretien avec. Merci à Serge Mielvac et à son invité, Franck Gentil, responsable de l'association La Compagnie Internationale du Train. Excellente matinée à l'écoute de Radio Pays d'Aurillac.